France Musique.
Le journal, Olivier Denry. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Un Premier ministre français placé à l'isolement pendant une semaine et une capitale européenne, en l'occurrence Strasbourg, qui va devoir vivre sans les eurodéputés. La crise sanitaire secoue le monde politique. Le Parlement européen vient ainsi d'annuler sa session de rentrée en Alsace parce que les risques sont trop élevés. Les élus siégeront donc la semaine prochaine à Bruxelles. Bruxelles où, depuis le mois de mars, Corinne Fugler, une grande partie du travail parlementaire se fait par visioconférence.
Même cet été, les députés sont restés rares dans l'hémicycle bruxellois. Beaucoup ont préféré travailler de chez eux, éviter les déplacements, idem pour leurs équipes. La décision des autorités françaises de classer le Bas-Rhin en zone rouge nous oblige à reconsidérer le déplacement à Strasbourg, annonce dans un communiqué le président du Parlement, David Sassoli. La volonté du Parlement européen est de revenir à Strasbourg et nous sommes convaincus que face à une diminution de la pandémie, ce sera possible. Tout un travail avait pourtant été entrepris ici à Strasbourg avec la mairie et les hôteliers pour rassurer les députés et le personnel européen. Le choix de David Sassoli irrite. En Alsace, les conditions sanitaires ne sont pas idéales. À Bruxelles non plus, la Belgique a connu depuis mars un taux de mortalité particulièrement élevé.
Le conseil scientifique se dit favorable à une réduction de la durée d'isolement pour les personnes testées positives et les cas contacts, 7 jours plutôt que 14. La décision devrait être validée vendredi à l'occasion d'un nouveau conseil de défense. 6 mois de travail parlementaire à l'initiative de la France Insoumise, la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire remet aujourd'hui son rapport. Une quarantaine de propositions ont été adoptées à l'unanimité la semaine dernière. L'une d'entre elles demande au gouvernement de clarifier le budget de la justice avec, d'un côté, les moyens alloués aux tribunaux, de l'autre, ceux destinés à l'administration pénitentiaire. Écoutez sur ce point les précisions de l'insoumis Hugo Bernalicis qui préside cette commission d'enquête. Il est au micro d'Anne Fauquemberg.
Quand on dit justice, tout le monde pense au tribunal. Mais il ne faut pas oublier que dans justice, il y a les prisons. Il y a l'administration pénitentiaire. Et donc, le budget justice pour 2020, justice judiciaire, n'augmente que de 0,32%. Voilà pourquoi les magistrats, les greffiers, les avocats, toute personne qui va dans un tribunal se dit « c'est bizarre, ils m'ont dit qu'il y avait des moyens comme jamais, et j'en vois pas la couleur, j'ai pas l'impression que ça s'améliore ». Par contre, administration pénitentiaire, oui, vous avez une augmentation d'environ 5,5% pour 2020, ce qui est en deçà de ce qu'ils avaient prévu d'ailleurs. Et donc, une des propositions de clarification des choses, c'est de séparer la mission justice en deux, de mettre d'un côté tout ce qui est justice judiciaire, conduite de l'action de politique judiciaire, et puis de l'autre côté, ce qui est administration pénitentiaire. Voilà qui clarifierait les choses. Alors, ils pourraient se glorifier d'avoir plus 5% par an, ou 7%, ou 8% sur l'administration pénitentiaire, mais qui ne viennent pas nous raconter que le budget de la justice au global augmente comme si dans le tribunal on envoyait la couleur, ce qui n'est évidemment pas le cas.
Le suicide de Christine Renon avait, il y a un an, traumatisé le monde enseignant. Cette directrice d'école maternelle s'était donné la mort dans le hall de son établissement scolaire. Elle avait laissé une lettre dénonçant ses conditions de travail. Cet après-midi, au ministère de l'Éducation nationale débute une série de rencontres avec les syndicats. Il sera notamment question aujourd'hui des décharges pour les directeurs et les directrices d'école, du temps pour assurer les charges administratives sans avoir à faire cours aux enfants. Claire Checaglini.
Aujourd'hui, il faut 14 classes dans une même école pour que son directeur n'ait plus à faire cours. Le SNUIPP, premier syndicat du primaire, réclame que ce chiffre soit abaissé à 10. Il plaide aussi pour une journée minimum de décharge par semaine, quelle que soit l'école. Discours quasi identique à la CGT ou à l'UNSA, qui rappelle que la réunion d'aujourd'hui servira à faire un état des lieux, selon le ministère, et non à engager des négociations. Et sur l'état des lieux, les syndicats sont d'accord. La charge de travail des directeurs a considérablement augmenté. En cause, la multiplication des enquêtes pour le rectorat, l'inspection académique, le renforcement du contrôle des absences ou encore la demande accrue d'accompagnement individuel des élèves. D'où la nécessité d'embaucher du personnel, expliquent les organisations syndicales. En revanche, elles sont divisées sur la question du statut du directeur et donc d'imposer un nouveau rapport hiérarchique entre enseignants. C'était pourtant l'option initiale du ministre, Jean-Michel Blanquer, qui annoncera en décembre, après la série de réunions de l'automne et des rencontres entre directeurs des écoles inaugurées en novembre, des mesures de simplification du travail de ses professeurs à double casquette.
Des nuages près des côtes de la Manche et des orages sur les bords de la Méditerranée. Entre les deux, ce sera un soleil très généreux, notamment sur le centre et l'est du pays. Les températures iront cet après-midi de 19 à 30 degrés, Jean-Baptiste Urbain.
Olivier Denré revient demain dès 7h. Bonne journée, Olivier.
Bonne journée à vous, à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.